Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour et bienvenue dans 90 minutes info. Avant de vous présenter le programme, le sommaire et mes invités du jour, le point sur l'actualité, c'est en compagnie de Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
Au moins 3 morts et 18 blessés après l'attaque d'un hôtel en Afghanistan. Une attaque perpétrée contre un hôtel de Kaboul fréquenté par des hommes d'affaires chinois. Une bruyante explosion et des tirs d'armes à feu ont été entendus cet après-midi dans la capitale afghane. Et selon le porte-parole des talibans, 3 assaillants ont été tués. Gérald Darmanin souhaite une sécurité renforcée devant les lieux de culte en prévision des fêtes de fin d'année. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet une forte vigilance pour les fêtes de Noël et Hanouka. Dans un tweet, il réclame notamment des policiers à pied devant les lieux de culte en raison du niveau élevé de menaces terroristes. Enfin, Brigitte Macron reçoit à l'Elysée Olena Zelenska, la première dame ukrainienne. C'est sa première visite en France depuis le début de la guerre en Ukraine en février dernier. Les deux femmes vont notamment se rendre dans une école parisienne qui accueille des réfugiés. Une conférence de soutien à l'Ukraine est également prévue demain à Paris.
Merci Mathieu et à tout à l'heure. C'est la chronique de débordement annoncée. Nous parlerons aujourd'hui bien sûr de cette soirée émaillée d'incidents parfois graves à l'issue des qualifications de la France et du Maroc et aux préparatifs aussi en matière de sécurité avant la demi-finale qui les verra s'affronter sur le terrain. Écoutez.
Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile parce que c'est quand même le Maroc et la France et vous connaissez les sentiments donc, des uns et des autres et on ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en champ de bataille.
Il sera aussi question de ce meurtre abject d'un octogénaire à Beson. Qui peut tuer ainsi et aussi sauvagement un résident d'immeuble sans défense ? Deux frères impliqués, maintes fois interpellés, toujours relâchés. Mais comment en est-on arrivé là ? Écoutez.
Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées facilement une cinquantaine de fois. Entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Mais je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système.
Et un nouveau report pour la présentation de l'épineuse et contestée réforme des retraites. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui qu'elle était décalée après les fêtes de fin d'année. Avec quelles conséquences au juste ?
Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, concertations ces dernières semaines et derniers mois. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement.
Et voilà, on entame le débat. Je vous présente mes invités du jour. Bonjour Jean-Michel Fauvert.
Bonjour.
Jean-Michel, vous êtes ancien patron du RAID, ancien parlementaire également. Bienvenue à vous, Moustapha Tossa. Oui. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à France Média Monde. Vous êtes binational, donc vous connaissez à la fois l'actualité du Maroc et bien sûr l'actualité en France que vous suivez au quotidien. On accueille aussi Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Merci
Bonjour.
D'être là.
Merci.
Ainsi que Pierre Lellouch, ancien ministre, ancien parlementaire également. Alors, 170 arrestations, dont 100 dans la capitale au moment de ces incidents survenus après la qualification à la fois du Maroc et de la France. Il y avait 20 000 personnes qui s'étaient rassemblées aux abords des Champs-Élysées dans la soirée. Selon la préfecture, d'ailleurs, 19 policiers ont été légèrement blessés à cette occasion. Et puis ailleurs, en France, quand même, il est important de le préciser, il y a eu 70 personnes qui ont été interpellées en tout. De quoi inquiéter évidemment les commerçants dans ce qu'on appelle le Triangle d'Or à Paris et de les forcer même à fermer plus tôt leurs boutiques. Regardez le reportage est signé Clémence Barbier.
Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogènes et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Élysées ce samedi, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt, comme Ozo Restaurateur, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
Comme j'étais ouvert, ils sont mis les gaz. Et les gens ils avaient sorti, il y avait 30 personnes qui sont rentrées, des poussées des portes. Et comme j'ai mis les clés sur en dessus, tac, j'ai fermé et voilà.
Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim et sa gérante ont déjà planifié la soirée de mercredi.
Ça sera la gérante ici, mais bon, je sais qu'elle va fermer aussi. Elle va fermer plus tôt, voilà. Mais je sais que je serai là aussi pour lui porter, voilà, une petite aide, parce que je sais qu'elle va pas être facile, ça va pas être facile pour elle. Mais côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler, quoi. Faut fermer les portes.
Pris pour cible par les casseurs et victime des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradée.
Jean-Michel Fauvergue, évidemment, il y avait des craintes du côté des forces de l'ordre. La prophétie, malheureusement, s'est un peu réalisée conformément à ce qu'on pouvait craindre. Comment, dans ces conditions, on prépare la rencontre à suivre qui sera encore plus explosif potentiellement?
Alors malheureusement, ce n'est pas une prophétie, parce qu'une prophétie, c'est quelque chose que l'on annonce. On n'est pas sûr que ça se réalise. Là, on est quand même sûr, à peu près, que ça se réalise à chaque fois. Et c'est ça le drame, d'ailleurs, d'une manière générale. Alors le drame, ça ne vient pas du fait qu'on ne prenne pas les précautions nécessaires et que l'État et les forces de l'ordre ne prennent pas les précautions nécessaires. Le drame vient du fait que des soirées festives, pour certains publics, ça veut dire tout casser sur les Champs-Élysées ou ailleurs, et casser l'outil des commerçants. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça ne se passe pas dans tous les sports. Ça se passe dans certains sports, et c'est résurgent comme problème. Comment fait-on pour éviter ou tout le moins contrer ce type de problème? Eh bien, on met beaucoup plus d'effectifs. On essaye en amont d'avoir du renseignement opérationnel sur ce qui va se passer. C'est toujours très délicat et très difficile. Mais on met beaucoup plus de personnel, de policiers, de gendarmes mobiles, CRS, des personnels habilités à faire du maintien de l'ordre pour pouvoir contenir ces débordements-là et faire fluidifier les groupes de la manière la plus rapide. Et puis la deuxième chose aussi qui est important et qui revient à chaque fois, c'est qu'à un certain moment, il faudrait aussi, sur ces dégradations-là et ces événements, avoir une réponse judiciaire qui soit à la hauteur et qui empêche ceux qui ont fait ces dégradations de le refaire la fois suivante.
Moustapha Tossassi, si on s'extrait un tout petit peu du contexte de la soirée, comment j'imagine que le match a été perçu et appréhendé et puis suivi d'une soirée très différente côté marocain, au Maroc?
En tout cas côté marocain, et d'ailleurs les témoignages l'ont dit sur tous les médias, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu le moindre incident, tout le monde est sorti, a fait la fête de manière pacifique, de manière tout à fait normale. Mais moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur, c'était prévisible, et c'est tellement prévisible que ça interroge, ça interpelle pour moi la capacité du gouvernement, la capacité de l'approche sécuritaire du gouvernement à empêcher ce genre d'événement.
Alors que fallait-il faire ?
Non, parce que maintenant, depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, chaque fois qu'il y a un rassemblement populaire à Paris ou sur les Champs-Élysées, il y a toujours ces incidents à la fin de ces... Comment se fait-il que on échoue sur le plan sécuritaire, sur le plan de la conception sécuritaire, on échoue à anticiper? Et pourquoi uniquement en France? Pourquoi rarement dans d'autres pays? Pourquoi uniquement en France?
Bonne question.
Moi, je crois que, bon, bien sûr, il faut interroger tous ces groupes, il faut condamner tous ces groupes qui descendent dans la rue pour casser. Ça, c'est très, très condamnable. Mais aussi, et c'est moi aussi le message que je veux porter aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi interpeller le ministère de l'Intérieur, l'approche sécuritaire pour gérer ce genre d'événement, qui a montré ses limites jusqu'à présent, qui a montré ses défaillances jusqu'à présent.
Donc clairement, notre invité remet en question le déploiement sécuritaire. C'est aussi votre sentiment, Benjamin Cauchy? Il y a un manque d'anticipation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi, hormis mettre des troupes sur le terrain, comme ça a été fait quand même? Il faut interdire ce genre de manifestation? Il faut boucler le périmètre?
Non, je ne pense pas qu'il faille interdire ce type de manifestation. Si ça s'est bien passé au Maroc, c'est peut-être aussi parce que la réponse policière et judiciaire, lorsqu'il y a des dégâts, lorsqu'il y a des égarements de certains Marocains, la justice et la police répondent immédiatement présente, et on peut même s'interroger parfois sur, comment dirais-je, la docilité ou l'indocilité des forces de l'ordre et de la justice marocaine. Je ferme cette parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut accuser les forces de l'ordre d'être insuffisamment en nombre. Je pense surtout qu'on peut prendre, la France peut prendre cette responsabilité d'avoir un laxisme judiciaire, et lorsque les grands ont perdu la honte, les petits ont perdu le respect. Eh bien, les petits petit. Les racailles utilisent des événements populaires, comme vous dites, que ce soit un rassemblement des Gilets jaunes, que ce soit un rassemblement contre la réforme des retraites, que ce soit un match de foot. Ils utilisent, tel un cheval de Troie, cette manifestation pour venir commettre leurs exactions. Quand je vois des drapeaux algériens qui flottent pour fêter la victoire du Maroc, je me dis qu'effectivement, il n'y a pas que des Marocains de cœur ou de papier qui viennent honorer leur équipe. Donc pour moi, le problème est judiciaire. Et à partir du moment où les jeunes, les racailles, les voyous, vous les appelez comme vous voulez, savent qu'ils ne leur arriveront rien lorsqu'ils commettent des exactions, que voulez-vous qu'il leur arrive lorsqu'il y a un match de foot ? Voilà, Pierre, c'est l'impunité totale.
Pierre Lelouch, avant de vous faire réagir, j'aimerais quand même vous soumettre, vous réagirez aussi ensuite, mais j'aimerais vous faire réagir à ce qu'a dit Alain Finkielkraut et la réponse aussi apportée par le romancier Tahar Ben Jelloun.
Il y a aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de s'acharner aussi sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, mais j'ai toutes les raisons de m'inquiéter.
J'exagère. Il y a bien sûr les débordements, bien sûr des imbéciles qui sortent casser des vitrines. Bien sûr, il y a toujours des salopards qui viennent gâcher la fête. Ces gens-là qui font ces débordements, on dirait qu'ils viennent en ville, ils descendent avec des barres pour casser. Mais il y en a toujours eu. Mais on ne peut pas généraliser et dire qu'il y a une francophobie en France, comme dit Alain Finkielkraut. Il a tort de dire ça. Il n'y a pas il y a peut-être une exaspération chez certains, mais il n'y a pas une haine de la France, pas du tout.
Pierre Lelouch, francophobie ou pas, dans tous les cas, il y a un rapport compliqué à l'histoire passée entre ces deux pays ou à la perception qu'on en a aussi.
En fait, avec le Maroc, il n'y a pas trop d'histoire difficile comme il y a, par exemple, avec l'Algérie, les relations avec le Maroc.
Pas autant, bien sûr.
Différent.
C'est un protectorat. Mais quand même, il y a ce sentiment, chose.
D'ailleurs, d'abord, commençons par ma propre réaction. J'ai été le député, moi, des Champs-Élysées pendant un quart de siècle. Et quand je vois ça, je suis très malheureux. Parce que c'est l'image de notre pays. Et quand c'est diffusé dans le monde entier, on a vraiment l'impression qu'on ne tient rien, qu'on est un pays occupé avec ce genre d'image est insupportable. Tout ça au milieu des flonflons et des décorations de Noël. Oui. C'est catastrophique pour l'image de notre pays et pour l'image de Paris. Deux, j'ai vraiment un sentiment de dépossession. Pourquoi est-ce que des gens avec des drapeaux étrangers prennent possession de mon avenue? Moi, je suis français, c'est mon avenue, c'est mon quartier. Pourquoi est-ce que ça doit servir de champ d'expression du bonheur marocain? Est-ce que nous, on ferait la même chose à Casablanca ou à Tanger? Réponse non. Réponse non. Ayons le courage de le dire. Après, il y a la violence d'un certain nombre de gens qui débarquent de banlieue et on sait très bien par où ils arrivent, via le RER, on connaît les stations. Et à chaque fois, c'est la même chose, la joie devient autre chose. Alors, question, pourquoi est-ce qu'au Maroc, pays que je connais bien, où j'ai beaucoup d'amis, il n'y a jamais ça? Jamais. Jamais il viendrait à l'idée d'un jeune Marocain d'envoyer un mortier, comme on a vu, sur un policier marocain, et encore moins dans une voiture où il y a un policier. Ce que l'on fait ici, pourquoi? Parce que la répression est telle au Maroc que ça ne traverse même pas leur esprit. D'ailleurs, aux États-Unis, je signale que si quelqu'un s'amuse à ça, immédiatement les types sortent des armes et ça se règle vite fait. Moi je ne suis pas pour une répression massive et sauvage, mais je dis qu'on a poussé le bouchon trop loin dans l'autre sens. Qui sont les gens qui sont inculpés parmi les 200 personnes qui ont été arrêtées il y a deux jours ou trois jours? Où sont les gens inculpés? Où sont les peines? Qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message aux voyous de banlieue qui vont atterrir à Paris? Donc, je suis très malheureux. Il y a bien sûr derrière tout ça l'histoire de l'immigration, le sentiment de revanche qui est très clair dans ce match. Et attendez, ce n'est pas que le Maroc. C'est l'ensemble du monde arabe derrière, avec une fierté retrouvée de la totalité du monde arabe. On l'entend à Doha, on l'entend dans toutes les capitales arabes, Maroc comprise. Maintenant, c'est la revanche contre l'Occident. Et ceux qui ont fait cette Coupe du Monde au Qatar n'ont peut-être pas perçu ce qui allait se passer derrière. Pour le Qatar, alors même qu'il y a 12 affaires de corruption tout autour au Parlement européen, autour du PSG, j'en passe et des meilleurs, le Qatar est en train de s'imposer comme le leader de la rue arabe face à l'Occident, ce qui ne manque pas d'un certain sel aujourd'hui. Donc les retombées de cette affaire sont gigantesques au niveau mondial et au niveau franco-marocain. Moi j'espère, un dernier mot, parce que vous avez vu que la ministre des Affaires étrangères française va au Maroc jeudi, le lendemain du match, avec le nouvel ambassadeur, que je connais bien d'ailleurs, un type très bien. Il n'y avait pas d'ambassadeur depuis plusieurs mois. Les relations étaient congelées. Bon, peut-être, j'espère, que ce match va pouvoir redonner l'occasion d'une reprise de relations entre la France et le Maroc.
Moustapha Tosa, quel est ce sentiment ? Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche ? Et comment l'analysez-vous, si c'est le cas ?
En tout cas, juste un petit commentaire sur ce que vient de dire M. Lellouche quand il a justifié la situation paisible au Maroc par la répression. C'est-à-dire la poignée de
et
fer.
Le respect aussi.
Le respect, la bonne éducation des gens qui descendent pour faire la fête, pas pour casser.
C'est vrai, il y a les deux. J'insiste sur le respect aussi.
Voilà, pour ce qui est de la revanche historique, mais moi, en tant que Marocain, je n'ai jamais senti qu'il y a un conflit entre moi et la France. Il n'y a pas un compte à solder avec la France. Moi, je peux parler au nom des Marocains, peut-être de par l'expérience qu'ils ont eue, un protectorat, une indépendance qui s'est passée relativement mieux qu'ailleurs, il n'y a pas cet héritage, il n'y a pas ce legs qui pourrait jouer comme un moteur de revanche, pousser
mais
quelques...
Mais vous êtes d'accord qu'ils jouent dans beaucoup de communautés arabes en France?
Oui, oui.
Voilà. Et qu'on retrouve ces gens-là aussi sur les Champs-Élysées.
Est-ce qu'il y a un problème générationnel?
Alors, il y a un problème générationnel. Moi je crois que parmi ceux qui descendent cassés, et il y a des gens qui ne connaissent ni la réalité maghrébine en général, ni la réalité française. En fait, ils sont dans une espèce de marge, enfermés dans une espèce de marge, et ce genre d'occasion, ça leur donne l'occasion, ça leur donne l'espoir de s'affirmer, de respirer. Mais ça reste une toute petite minorité, et c'est là où je ne suis. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'effet de loupe. Moi, j'ai entendu tout à l'heure Monsieur Falkenkrant dire francophobie. Tout de suite, ces mots qui sont durs. La maire, Madame la maire du 8e arrondissement, qui parle de guerre civile. Est-ce qu'elle sait à quoi ressemble une guerre civile pour parler de guerre civile que de cette manière-là? Donc il y a une volonté d'exagération qui pourrait être néfaste et négative.
Il faut faire attention à l'emploi des mots, Benjamin Kochik, quand même. Oui, ne pas faire de surenchère.
Non, pas de surenchère, et c'est bien ça qui m'inquiète dans cette histoire-là. Il faudrait vraiment essayer de dissocier autant que possible, j'ai envie de dire, le dossier du grand remplacement, dont tout le monde parle depuis des mois, dont Gérald Darmanin nourrit désormais avec les chiffres, de ce match de football entre la France et le Maroc. La deuxième chose, vous parlez de dépossession des Champs-Élysées, Monsieur Lellouch, je suis assez d'accord avec vous. Eût-il fallu que Madame Hidalgo mette en place une fan zone, mais pour des raisons idéologiques, elle a refusé de valoriser la Coupe du Monde du Qatar.
C'était peut-être une façon, en fermant les Champs-Élysées. Parce que absolument. La façon de régler ce problème...
Pardonnez-moi de finir, Monsieur Lellouch, et de ce fait, laisser les Champs-Élysées uniquement aux supporters de l'équipe nationale. Il n'y a absolument rien de raciste ni de discriminant là-dessus, mais la plus belle avenue de France et du monde soit réservée à ses patriotes et qu'il y ait une fan zone pour que les supporters étrangers puissent bien éclater leur joie. Je pense qu'on pourrait, avec des choses simples et, comment dirais-je, apaisées, éviter de tomber dans cette surenchère. On voit bien effectivement qu'il y en a qui disent que ça va être le match des musulmans contre l'Occident. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, parce que c'est un jeu dangereux.
Non, mais vous n'avez pas envie.
Je n'ai pas envie de souffler dessus, Monsieur Lellouche, parce que c'est un jeu dangereux.
Question simple, justement. Merci.
Il y en a qui veulent compter les morts.
Moi, j'ai aucune envie de compter les morts. Est-ce que le match de mercredi, quoi qu'on en dise, ira au-delà du sport? Vous vous souvenez d'Emmanuel Macron disant qu'il ne faut pas politiser le sport. Ça sera de toute façon politique.
Nelly, permettez-moi de vous rappeler deux ou trois choses. On ne peut pas séparer à ce niveau de passion et d'influence financière. On est en train de parler d'une coupe qui va rapporter entre 9 et 13 milliards de dollars au Qatar sur un investissement de 220. C'est faramineux. Avec l'impact que ça a via les médias et les images du foot, avec la passion que ça génère, chez 450 millions d'Arabes unis derrière l'équipe du Maroc, c'est ça qui se passe. Et beaucoup de Français derrière leur équipe aussi. Je rappelle que le foot, ça n'a jamais été neutre politiquement. En 1969, il y a eu une guerre entre deux pays d'Amérique du Sud, exploitée, bien sûr qu'il y avait un tas d'autres raisons que le football, mais le football sert, comment dire, de catalyseur à toutes sortes d'autres problèmes. Ouais. Et là, la violence sort, y compris militaire dans le cas de 69. Et match de qualification de la Coupe du Monde, on retombe sur la FIFA. Et ça, c'était en 69. En 78, il y a eu la Coupe organisée en Argentine par un gouvernement militaire et fasciste. Donc, qui s'est arrangé pour la gagner, la Coupe, se maintenir au pouvoir. Donc, on ne peut pas dire que la politique soit absente. Elle est omniprésente, y compris dans le gouvernement du Qatar, ce qu'ils font tous les jours.
Il y a des enjeux qui, de toute façon, dépassent le simple cadre du sport.
M. Lelouch, à deux reprises, il a dit le monde arabe, mais moi, je rajouterais aussi le continent africain.
C'est la première équipe africaine qui accède au dernier carré.
Alors, le contexte politique, il faut le placer aussi dans la relation France-Maroc. La relation France-Maroc, depuis un certain nombre de mois, voire d'années, ne va pas très bien. Il y a une crise froide entre les deux capitales. Il y a une préparation actuelle de la prochaine visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Catherine Colonna, le 15 ou le 16, elle va partir au Maroc pour préparer cette visite. Donc c'est un match qui intervient dans un bras de fer politique entre les deux pays. Et on l'espère, ça va aider à la compréhension des deux pays. Alors, il y a juste un point à signaler, pourquoi le Maroc est en froid avec la France ? Pour la simple raison, ce n'est pas une question de laisser passer consulaire ni d'immigration, contrairement à ce qu'on a dit. Le Maroc a demandé à la France de reconnaître la marocanité du Sahara, comme l'ont fait les États-Unis. Et le Maroc estime que la France est suffisamment proche, qu'il y a un partenariat suffisamment stratégique avec Paris pour qu'elle fasse ce pas-là.
Maroc reproche à la France d'être beaucoup trop proche de l'Algérie, de cultiver l'histoire mémorielle du matin au soir et de ne pas s'occuper, en effet, de la reconnaissance du Sahara que les Marocains considèrent comme
Sahara occidental.
Voilà. Et j'ai eu à travailler beaucoup sur ces sujets.
Sahara marocain, parce que la plupart de la communauté internationale est en train de reconnaître la marocanité du Sahara. C'est ça, en fait.
Mais pas l'ONU.
En tout cas, vous faites bien votre job pour Sa Majesté.
Pas l'ONU.
L'ONU est en train de travailler.
Mais ça fait des années.
Vous savez très bien que
il y a des missions d'observation, vous le savez, sur le Sahara occidental, et c'est pas tout à fait clair encore du côté de l'ONU.
En tout cas, moi, j'ai parlé de ce sujet pour dire que c'est un des sujets de divergence entre Paris et Rabat.
Officiellement,
mais il y a l'autre sujet, cher monsieur Moustapha, c'est quand même les visas. Parce que Macron a eu quand même la bonne idée, quand il y a eu le scandale sur les OQTF, de demander aux pays du Maghreb de bien vouloir accepter les gens qu'on leur renvoie, qui n'ont rien à faire en France.
Allez, un dernier mot.
En échange de quoi, naturellement, ils auraient des visas.
Jean-Michel Fauvergue, un dernier mot en quelques secondes sur ce lien diplomatique qui est vraiment, pas rompu, mais en tout cas, dont la confiance est quand même entamée, quoi, à plusieurs égards.
Moi, je pense que le problème de tension, les derniers problèmes de tension qu'on a avec le Maroc, c'est pour les problèmes de visa et les problèmes de visa consulaire. Et c'est très clair, la France s'est positionnée et il y a un certain nombre de visas qui ont été refusés à un certain nombre de personnes qui ont de l'influence au Maroc et qui l'ont mal pris. Et on est sur cette position-là. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que, pour en revenir à nos manifestations, c'est ce qu'on voit sur les Champs-Élysées. Évidemment que c'est pas la majorité des Marocains ou des Français, mais en tout cas, c'est la majorité de gens qui sont dans les banlieues, qui viennent et qui viennent faire leur marché sur des manifestations comme ça. Rappelons-le, leur marché est usé de violence. Et que ces jeunes-là, qui sont, on va dire jeunes ou ces agresseurs, qui sont... qui se sentent victimisés pour des raisons riches et variées qu'on n'a pas le temps de développer là, ont besoin de symboles. Et le symbole aujourd'hui, il vient à travers le sport.
Merci beaucoup. Il est l'heure de retrouver Éric Dorine-Matène qui est déjà là pour sa chronique Écho. À tout de suite.
Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
Bonjour Eric.
Bonjour.
On va parler de la formation professionnelle. Avec cette question, le contribuable va-t-il devoir mettre la main à la poche ?
Alors, peut-être pas forcément le contribuable, mais plutôt celui qui va être formé. C'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est parce que, vous savez, on a tous un compte personnel formation. Et là, peut-être que le salarié va déchanter parce que le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi de finances sur la formation. Il propose tout simplement d'instaurer une participation du salarié. C'est-à-dire que ce sera un peu comme le système de santé avec le ticket modérateur. C'est-à-dire vous achetez un médicament et puis il y a un reste à charge pour vous. Alors, bien sûr, les demandeurs d'emploi, eux, ne seraient pas concernés parce qu'on doit les former. C'est important pour leur futur. Mais pour le salarié, ça en dit long. Ça veut dire que finalement, le ministre chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle, dit qu'il y a peut-être des fraudes, peut-être trop de démarchages abusifs. Et vous savez qu'il y a eu énormément de SMS qui ont été envoyés lorsque le système de formation a été libéré. Ça fait un appel d'air considérable. Et moi, j'ai appris, par exemple, qu'il y avait eu des millions de demandes, hein, en termes, même ça se chiffre en termes de millions, hein, le nombre d'offres frauduleuses, peut-être pas frauduleuses, mais en tout cas le nombre d'offres.
Moi, j'ai été appelé une dizaine de fois.
Ah oui, non, mais c'est de la folie. Et donc, là, il y a un tour de vis qui est exigé de toute urgence. Alors, c'est pas choquant que ce soit, parce que le tout gratuit, lui, parfois n'est pas bon. Hein. Ça incite d'abord beaucoup de personnes à suivre des formations, peut-être pas bidons, mais enfin qui ne sont pas fiables. Et puis surtout, on lâche en cours de route. Et moi, je retiens le chiffre que je trouve enfin, c'est que le déficit de l'organisme France Compétences dépasse les 2 milliards. Vous vous rendez compte, France Compétences qui est chargée de cela, et que ça veut dire une chose très simple, c'est que l'État ne peut plus suivre, parce que quand il y a trop de dépenses et que personne ne veut payer, sauf bien l'entreprise, là, il y a un vrai problème, d'où ce tour de vis qui risque de faire mal, parce qu'évidemment, être moins formé, bah, c'est ceux qui en ont besoin qui en souffriront le plus.
Merci beaucoup, c'était la chronique Écho.
C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
Les milliards sont pas perdus.
Restez avec nous dans quelques instants, on parlera du meurtre de cet homme de 87 ans dans la cave de son immeuble. Meurtre d'une intense sauvagerie. On se pose évidemment beaucoup de questions. Et merci beaucoup Moustapha Tossa d'être venu parmi nous pour commenter l'actualité. Vous reviendrez peut-être jeudi à l'issue de la rencontre. À tout de suite. De retour dans cette émission, le débat reprend juste après le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Gérald Darmanin appelle à la vigilance devant les lieux de culte face au niveau de menaces terroristes. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des consignes au préfet pour sécuriser les fêtes chrétiennes et juives de cette fin d'année. J'ai demandé aux policiers et gendarmes une vigilance particulière et une présence à pied renforcée devant les lieux de culte, a indiqué le ministre sur Twitter. Coup de tonnerre au Parlement européen, Athènes a décidé de geler tous les avoirs de la vice-présidente. Eva Kaili a été écrouée hier par la justice belge. Elle est soupçonnée de corruption en lien avec le Qatar. Des allégations très sérieuses pour Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Les allégations contre la vice-présidente du Parlement européen sont très sérieuses. Et nous savons qu'elle soulève de sérieuses préoccupations, car il s'agit de la perte de confiance des gens dans nos institutions européennes. Nous exigeons les normes les plus élevées et nous exigeons l'honnêteté et l'intégrité.
Brigitte Macron a reçu la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, à l'Elysée aujourd'hui. Il s'agit de sa première visite en France depuis le début de la guerre en Ukraine. À noter qu'une partie du gouvernement ukrainien a également fait le déplacement en France en raison de la conférence de soutien à l'Ukraine qui doit se tenir demain à Paris. Emmanuel Macron s'est entretenu hier au téléphone avec Volodymyr Zelensky à ce sujet. L'objectif de cette conférence est d'assurer un soutien financier et logistique alors que l'Ukraine fait face ces dernières semaines à d'importantes destructions de ses infrastructures vitales. Les précisions de Célia Judas.
Sécurité énergétique et alimentaire, reconstruction de l'Ukraine, voici les enjeux de la conférence internationale réunissant chefs d'État et ministres de 47 pays demain à Paris. Parmi les 10 points du plan de paix proposé par Volodymyr Zelensky, le retrait des troupes russes qui va de pair avec la fin des hostilités et surtout la reconnaissance de l'intégralité territoriale de l'Ukraine par la Russie. Le président souhaite également la libération des prisonniers et placer la centrale nucléaire de Zaporijjia sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique et du personnel ukrainien. Autre enjeu, répondre aux besoins urgents du pays pour passer l'hiver par une aide humanitaire concrète. Parmi ces besoins, l'eau, l'alimentaire, l'énergie, les services de santé et les transports. Cette aide devra permettre au pays de maintenir en état de fonctionnement les infrastructures dites essentielles, telles que les routes ou les ponts. Demain, des réunions seront organisées entre représentants d'entreprises françaises et ministres ukrainiens pour parler de la reconstruction du pays dévasté. Selon l'Elysée, 500 entreprises françaises seront présentes, toutes prêtes à s'engager aux côtés de Kiev dans les domaines des infrastructures, la santé, les énergies, l'agroalimentaire et les technologies. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, la France est aujourd'hui le 8e plus grand soutien à Kiev.
En Iran, un manifestant condamné à mort a été exécuté hier. L'homme avait été arrêté il y a quelques jours alors qu'il tentait de fuir le pays. Il s'agit de la deuxième exécution liée à la contestation après la pendaison jeudi d'un homme de 23 ans, reconnu coupable d'avoir attaqué et blessé un paramilitaire. D'autres personnes condamnées également risquent à leur tour d'être exécutées dans les prochains jours. Et puis au Royaume-Uni, 3 enfants sont morts après être tombés dans un lac gelé. Âgés de 8, 10 et 11 ans, ces 3 garçons repêchés hier n'ont pas pu être réanimés, a indiqué la police, qui précise qu'un 4e garçon repêché au même moment et âgé de 6 ans se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital. On écoute le commandant de police chargé de l'opération qui s'est exprimé tout à l'heure.
Les policiers sont entrés dans l'eau. Ils ont été rejoints par d'autres membres des autres services d'urgence. Certains des policiers sont allés jusqu'en eau profonde. Un de mes officiers essayait de percer la glace pour, en fait, sauver les enfants. Et suite à cela, cet officier a eu une légère hypothermie hier. Je suis heureux de dire qu'il est maintenant sorti de l'hôpital.
Voilà pour l'actualité et vous retrouvez à présent Nelly Denac pour la suite de 90 minutes info. C'est à vous Nelly.
Merci beaucoup Mickaël. Reprise du débat donc avec, je vous le disais tout à l'heure, le meurtre sauvage d'un octogénaire qui a été tué dans la cave de son immeuble. Ça s'est passé à Beson en région parisienne. Alors 2 frères habitaient l'immeuble avec leur mère. L'un était présent d'ailleurs dans la cave au moment de la découverte du corps. Il y en a un de ces 2 frères qui a été hospitalisé d'office. L'autre est un homme au profil ultra violent, très défavorablement connu des services de police. Et il a fini par passer aux aveux. Entre-temps, il a été mis en examen puis écroué. On revient à ce pédigré judiciaire dans ce reportage. Regardez.
2 frères ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les 2 de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans. Il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed, lui, est âgé de 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé, mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue. Il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
Benjamin Cauchy, je vous propose d'écouter la réaction qu'a eue la mère de Beson, bouleversée, vous allez le voir dans les premières secondes. Mmh.
Viendra le temps aussi, mais il va falloir aussi qu'on passe à l'étape suivante pour dire comment on gère pour que ça ne se reproduise plus. Et aussi, un point sur lequel j'insiste, il y a beaucoup de gens comme moi qui œuvrent matin, midi et soir. Et parce que notre objectif, excusez-moi, je suis un peu émue, mais notre objectif, c'est que notre société se porte mieux. Quand on retrouve le pacte social entre nous, qu'on ne divise pas les gens. Et ça m'écœure de voir des gens qui divisent les choses, les gens, qui opposent les gens.
Qui divise les gens.
C'est assez particulier d'entendre cette mère socialiste. Il faut préciser les choses. Je ne vais pas faire de la politique partout, mais à un moment donné, il faut rappeler les choses.
C'était sur le santé,
Voilà. Ça n'a échappé à personne. Il faut rappeler les choses. Le Parti socialiste et les socialistes au pouvoir n'ont eu de cesse de rendre excusable toute faute commise par des délinquants. On voulu rendre une justice plus favorable à la réinsertion. Bref, tout ce discours d'excuse des coupables, au lieu d'essayer d'avoir une justice qui défend les victimes, eh bien aujourd'hui on en paye le prix. On en paye le prix, donc nous sommes tous émus, comme Madame le maire, de voir ces exactions et de voir un papy, notre grand-père de 88 ans, c'est le grand-père de tous les Français, là, aujourd'hui, à 88 ans, il a été massacré, ce monsieur. C'est la responsabilité de nos gouvernants des 30 dernières années qui n'ont pas voulu prendre la mesure des choses et mettre en place une justice plus ferme. Aujourd'hui, on le paye. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure pour les Champs-Élysées, on en parlera sans doute pour d'autres affaires, c'est le laxisme judiciaire. Ils ont été pris combien de fois, ils sont ressortis combien de fois, combien de rappels à la loi, combien, attention mon enfant, c'est pas bien ce que t'as fait, on va tirer les oreilles. Au bilan, ils viennent tuer quelqu'un de 88 ans. Et puis le deuxième point aussi, laxisme judiciaire et puis aussi abandon de l'hôpital et notamment de l'hôpital psychiatrique.
Responsabilité multiple, Pierre Lelouch, vous êtes d'accord avec lui?
Oui, tout ce qui vient d'être dit est absolument exact. Je rappelle que ces résidences à Beson, elles avaient été construites après-guerre pour pour des Français qui découvraient les logements confortables, c'est devenu des zones de guerre. Il suffit qu'il y ait une famille à problème dans une résidence comme celle-là pour que la vie de tout le monde soit pourrie complètement. Ce qui est étonnant, bon, on a vu la mère du coin larmoyer, mais qu'est-ce qu'elle a fait en termes de vidéosurveillance, de sanctions des familles? Son logis, c'est sans doute un système d'HLM, cette résidence. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les exclure? La police dit que ce personnage a été arrêté une cinquantaine de fois. Pourquoi il n'y a jamais eu de sanction, ni de sanction sur le logement? Parce que c'est la seule chose qui fait réagir l'entourage. C'est quand il y a une menace d'expulsion. Là, il ne s'est rien passé. Ils sont restés dans le logement. Ils ont fini par tuer une personne complètement vulnérable à l'intérieur même de l'immeuble. Bon, tout ça, c'est un peu comme les Champs-Élysées tout à l'heure. C'est l'image d'un pays qui délite et qui n'applique pas son métier d'État régalien. Tout pouvoir confondu, la maire renvoie sur l'État, comme Hidalgo renvoie sur l'État lorsqu'il s'agit d'une zone de crack. Mais les Français, ils en ont marre de ça, parce qu'ils élisent des gens, ils payent des impôts. La première mission de l'État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Et là, on est en train de voir à quel point c'est...
Vous parliez d'impunité tout à l'heure. Oui. On va écouter le témoignage d'un policier, justement, qui connaît bien cet individu en question, l'un des deux frères.
Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal, tout le temps, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre les murs pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis consterné, en tant que policier, je suis abattu. C'est des personnes qui auraient dû être à l'écart de la société pour protéger la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé, qui récidivent, 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 récidivent. Et je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle ne vient pas de nous.
Elle est là, la vraie défaillance judiciaire. On est en plein dedans avec, en plus, il le dit bien, hein, ce policier, enfin, il en a conscience, des individus. Des personnes qui connaissent bien le système et qui savent très très bien tordre le système pour pouvoir s'en sortir en se tapant la tête contre les murs, en portant plainte contre les policiers.
Oui, il y a une vraie... Oui, effectivement, ils savent faire et ça se généralise. Et les bonnes pratiques, si j'ose dire ainsi, se passent de truand en truand. Oui, on a un vrai problème, un double problème dans notre pays. On a le problème de la multirécidive. On ne sait pas traiter la multirécidive, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et j'ajoute ici qu'un minimum de délinquants nous fait un maximum de faits parce qu'ils reviennent tout le temps. Et le policier l'a dit, ils reviennent tout le temps. Il a interpellé plus d'une centaine, une centaine de fois. Et ils reviennent tout le temps. Ça, c'est le premier problème, la multirécidive. Il faut faire un véritable plan contre la multirécidive. Et ça passera par une justice beaucoup plus ferme, bien évidemment, et plus efficace. C'est la deuxième problématique qu'on a aussi, c'est sur la nature psychologique des choses. Aujourd'hui, vous savez que 30% de nos prisons sont occupées par des personnes qui ont un problème psychologique important, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Il faut donc qu'on règle cette problématique psychologique et qu'on fasse de l'enfermement, mais de l'enfermement psychologique dans des milieux adéquats. Alors, je ne sais pas si je le sais, parce que un des deux individus n'a pas été mis en garde à vue. Et il a été hospitalisé en milieu psychiatrique. Donc il a sans doute véritablement un problème psychiatrique important. Mais il faut que, s'il n'est pas jugé pour ce qu'il a fait, qu'il soit mis en milieu fermé jusqu'à la fin de ses jours, qu'il soit mis hors d'état de nuire, en milieu psychiatrique, en milieu fermé. Et pour ça, il faut un vrai plan là-dessus aussi.
Allez, on va changer de thème. J'aimerais qu'on évoque cette dernière action spectaculaire qui vous a sans doute pas échappé, d'activistes du climat dans la cimenterie, une cimenterie du groupe Lafarge, près de Marseille, qui a été prise pour cible samedi, avec plusieurs dizaines même de militants qui ont causé d'importants dégâts dans son enceinte. On fait le point avec notre correspondante dans la région, Stéphanie Rouquier.
L'usine Lafarge est encore à l'arrêt aujourd'hui. Les 200 salariés sont présents sur site pour aider à la remise en fonction car les dégâts sont considérables. Des barrières ont été coupées, des câbles et installations électriques sectionnés, de gros véhicules industriels incendiés. Les dégâts sont en cours d'estimation. Parallèlement, les gendarmes sont encore sur place pour mener la suite de l'enquête. Il faut savoir que Lafarge a porté plainte hier. Alors le porte-parole national dépêché sur place nous a expliqué que l'attaque a été très rapide, violente, et au même moment, une centaine de salariés et leurs enfants étaient réunis à l'entrée du site pour la fête traditionnelle de fin d'année. Un employé a prévenu rapidement les familles et tout le monde a pu partir sans croiser les militants qui s'étaient introduits dans l'usine. À noter que cette usine, justement, est sécurisée, mais elle se trouve sur un site très vaste, impossible de parer une telle attaque. Le porte-parole a d'ailleurs ajouté que la sécurité de tous les sites de Lafarge France a été renforcée aujourd'hui.
Pierre Lellouche, est-ce qu'il y a une écolo-délinquance aujourd'hui ou quelque chose de cet ordre-là ? C'est-à-dire que tout ne peut pas justifier le fait de vouloir sauver la planète ?
Quand Gérald Darmanin a prononcé cette expression, j'ai trouvé qu'il y allait un peu fort. Quand on voit ce genre de choses-là, je veux dire, j'ai beaucoup de mal à ne pas penser qu'il s'agit d'une sorte de, pour le coup, de guérilla, hein, de guérilla en... anti-économique à partir d'industries ou de groupes qui sont choisis comme étant dangereux pour le climat. Moi, j'aimerais qu'on m'explique en quoi la fabrication de ciment, c'est-à-dire à construire des logements, constitue un crime contre le climat.
A priori, si, le secteur du bâtiment serait un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Oui. En France, ça représente 20% des émissions, 30% pour les transports, juste pour avoir l'ordre d'idée.
Oui, mais dans ce cas-là, il faut tout arrêter. On ne peut pas à la fois dire qu'il faut des logements, y compris pour les malheureux qui sont dans la rue aujourd'hui. Moi, j'entendais ça en venant tout à l'heure. Et dire qu'il faut aller attaquer les usines qui fabriquent le ciment, qui construisent ces logements. Au nom de je ne sais quel argument.
Oui, c'est ça. En fait, pour eux, la fin justifie les moyens pour ces militants.
Ils émettent des gaz à effet de serre. Et vous comparez à quoi ? Il faudrait faire quoi ? Construire des bâtiments en paille ?
Des huttes.
Des huttes. Avec quoi ? Quel est le comparatif ?
Des tipis.
C'est là qu'il faut faire attention. Moi, je suis, comme tout un chacun, très préoccupé par les changements climatiques, les dommages causés à notre terre, à la mer. Mais je crois en même temps qu'il faut... avoir un peu les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, et décider quel type de société on veut. Et toujours garder à l'esprit que 60 et quelques millions de Français, c'est moins de 1%
des pollueurs
mondiaux.
On peut se demander en quoi ça sert la cause, en fait, ce genre d'action.
J'ai cru que M. Lellouche m'avait piqué les éléments de langage. Je pense que c'est exactement la même chose. Comment des écolos peuvent aller à l'encontre d'une industrie qui aide à construire du logement alors qu'on a des centaines de milliers de gens dans la rue, qu'on les voit pleurer devant des tentes de quechua pour
faire la récupération
Ils ne sont pas une contradiction près, je vous l'accorde. Cela étant dit, pour moi, c'est du terrorisme. On a eu la semaine dernière l'hôpital de Versailles qui a été hacké. C'est du terrorisme numérique. Là, c'est du terrorisme. Ils n'ont pas fait de l'agite propre à se promener en écolo-bobo avec des panchos de péruviens devant la porte. Non, on a bien vu, ils avaient des haches, des outils pour détruire le matériel de production. Donc j'ai envie de leur dire, camarades, vous venez de tuer, de casser l'outil de production de vos camarades qui travaillent à l'intérieur et qui se battent pour avoir un salaire. Voilà, j'ai fait mon gauchiste de service. Mais tout ça pour vous dire qu'ils sont vraiment dans toutes les contradictions possibles avec ce sujet-là. À force d'agiter et de détourner l'attention sur l'essentiel, les écologistes se décrédibilisent. Le sapin de Noël, le Tour de France, les baptêmes de l'air, la corrida,
le barbecue,
la burqa, le barbecue. Qu'est-ce qu'on a eu droit ? La chasse. Et la chasse, depuis quelques jours, ça va arriver. Et là, nous avons les cimenteries. Donc on attend peut-être la prochaine. Quoi qu'il en soit, il ne parle pas de pouvoir d'achat, il ne parle pas de logement, il ne parle pas d'insécurité, il ne parle pas d'immigration. Ce sont des idiots utiles.
Ouais. En l'espèce, il faudrait voir quel genre de sanctions. Il faut des sanctions, encore une fois.
Faites des sanctions.
Je voudrais rajouter à tout ce qui a été dit et qui est du bon sens. Et le fait que, si on regarde bien les images que l'on a à l'écran, que l'on a eues à l'écran, on voit le caractère organisé des choses. Ils sont tous en tenue. C'est les tenues qu'a l'identité, qu'ont les flics de l'identité judiciaire pour pas laisser de traces. Ils sont gantés, ils sont cagoulés avec des capuches. Ils ont des sacs à dos à l'intérieur desquels ils ont le matériel. Ça, c'est organisé. Ils sont en bande organisée et le délit là-dessus est aggravé par le fait qu'ils font des ravages en bande organisée et que à un certain moment, il y a un chef, il y a un plan, il y a un top départ.
le renseignement.
C'est la question que vous
voulez poser, c'est comment est-ce que plusieurs centaines de gens s'organisent pour mener une attaque comme ça et personne ne le sait.
Moi, je ne saurais répondre à votre question, Pierre Lellouche. Aujourd'hui, en tout cas, les RT nous le diront, mais c'est effectivement des groupuscules qui sont suivis, mais là, vraisemblablement, avec les moyens modernes de communication.
Vous disiez qui les finance?
Oui. Alors,
qui les finance? Est-ce que ce sont des collectivités locales?
Est-ce que ce sont des collectivités
locales? Non, mais la problématique, c'est qu'ils sont...
les subventions.
La problématique, c'est qu'ils sont en bande organisée, et le fait qu'ils soient en bande organisée, c'est tout... sauf de la réaction, c'est quelque chose de prévu et c'est pas, moi j'emploierais pas le terme de terrorisme, mais de l'ultra-violence écolo et qui doit être aussi puni en tant que tel. C'est une dégradation intolérable et effectivement derrière, il y a des employés qui vont être au tapis et puis c'est effectivement, j'ajoute je mets moi aussi un euro dans la machine en ce qui concerne le paradoxe et l'ineptie de ce combat-là, qui s'oppose à des cimentiers qui ont pour but aussi de construire des logements sociaux et de mettre à l'abri un certain nombre de personnes qui n'ont pas les moyens non plus.
On va finir cette deuxième demi-heure en parlant de la crise Covid, la neuvième vague et le retour du masque qui est plébiscité par beaucoup de monde aujourd'hui. Christophe de Chavannes, par exemple, vous l'avez peut-être vu, très en colère sur le plateau de nos confrères de France Télévisions. Il a demandé au ministre Clément Beaune de rétablir les masques dans les transports en lui disant ces mots. Qu'est-ce que vous attendez? Les gens meurent à nouveau. Il va y avoir des gens dans les couloirs, sur des civières, dans les hôpitaux. Et puis, il y a cette séquence d'Emmanuel Macron qui ne vous a pas échappé il y a quelques jours. Emmanuel Macron, en pleine réunion, arborant le masque. Mais ça, c'était avant. Regardez la suite.
J'ai mis le masque, non pas parce que je vous rassure, je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations d'un ministre de la santé et face à la remontée de l'épidémie et de la conjonction, je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Et donc c'est aussi une manière de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà.
C'est incroyable. Hein. Il y a 3 jours ou 4 jours d'écart.
J'aime bien ce principe de pédagogie. C'est comme si un prof vous disait que le jeudi est après le mercredi et que le lendemain, il vous disait non, mais finalement, le jeudi, c'est avant le mercredi. C'est absolument pas audible.
Parce qu'il vous étonne, on est dans le en même temps complet.
Le en même temps devient nulle part, en fait. C'est
mais
ni l'un ni l'autre.
Coup de com' permanent. En fait.
Coup de com' permanent. Je pense que ça va être contre-productif. Il y a un sondage qui disait que 76% des Français étaient favorables au retour du masque dans les transports en commun. Je me demande quel est le pourcentage de Français qui prend les transports en commun. Peut-être les 24, restants. Parce que
il est à l'écran d'ailleurs ce sondage, vous le voyez, c'est celui auquel vous faites référence.
Je crois qu'on joue encore l'instrumentalisation de la peur est clairement posée avec ce sujet du masque.
Bonjour Bruno Mégarban, il nous reste quelques minutes. Vous êtes en direct via Skype avec nous, vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, merci de nous rejoindre. Un point peut-être sur la situation à l'hôpital avec cette 9e vague qui déferle depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que c'est encore tenable pour vous?
Écoutez, la situation à l'hôpital est difficile. À nouveau, elle est difficile pas en raison des épidémies qui sévissent actuellement, en raison de problèmes structurels chroniques qui malheureusement trouvent leur acmé en cette période hivernale. Nous avons environ 15% de lits fermés et donc nous sommes en très grande difficulté, il faut le dire, à tel point que dans certains services d'urgence, on demande aux patients de revenir le lendemain, voire de ne pas entrer dans les urgences, faute de possibilité de consultation ou d'admission. Alors, la crise Covid ne fait que révéler ces problématiques hospitalières, mais je dirais, évidemment, on est très loin du problème de la Covid de mars-avril 2020. Aujourd'hui, il y a une très bonne décorrélation entre l'épidémie qui progresse avec des contaminations qui continuent à augmenter, même si la vitesse de progression de l'épidémie s'est ralentie depuis quelques jours, et les hospitalisations qui restent à un niveau plus inférieur, qui auraient dû en temps normal être parfaitement absorbables par l'hôpital, mais qui effectivement compliquent notre gestion de la saison hivernale. Alors, il faut savoir évidemment qu'aujourd'hui, si l'on est vacciné ou à jour de ces vaccinations, eh bien, on ne risque pas de faire une forme grave de la maladie. De l'Omicron, avec son sous-variant BQ1.1 qui circule actuellement, n'a pas du tout la même virulence des souches antérieures.
Mais juste un mot quand même, puisqu'on parle aujourd'hui du port du masque, c'est un petit peu l'objet aussi du débat. Encore et toujours, faut le recommander ?
Alors oui, il faut faire une recommandation forte, mais à mon sens, pas une obligation. Pour quelle raison ? D'abord, comme j'étais en train de l'expliquer, nous ne sommes plus dans la même situation que 2020 face à une maladie nouvelle pour laquelle il n'y avait pas de prévention efficace contre les formes graves de la maladie, où chacun d'entre nous, même jeune, même en bonne santé, pouvait mourir de façon indue s'il attrapait le virus. Aujourd'hui, la majorité des personnes vaccinées à jour, l'infection par la COVID-19 est synonyme d'une petite infection virale saisonnière sans plus de complications. Mais effectivement, il y a les personnes les plus fragiles, celles qui ont des comorbidités lourdes, celles qui sont immunodéprimées, et celles-ci, bien sûr, elles-mêmes doivent porter le masque pour se protéger du risque d'une contamination, même si elles sont vaccinées pour les immunodéprimés, car malheureusement, ces personnes répondent très peu à la vaccination, mais aussi, dans la mesure du possible, leurs proches et dans les lieux clos où, effectivement, on est tout à fait serrés les uns contre les autres, il serait utile que les autres aussi portent le masque pour les protéger. Vous voyez, donc,
merci beaucoup.
Il y a un double objectif.
Merci voilà. beaucoup, merci professeur, d'avoir répondu à nos questions en direct cet après-midi. On va s'interrompre à nouveau et on va parler de cette réforme des retraites, décidément, encore décalée dans le temps, la présentation de ce texte, initialement prévu autour du 15 décembre. Maintenant, non, le chef de l'État dit lui-même, eh bien, ce sera plutôt autour du 10 janvier. À tout de suite. De retour avec vous pour la dernière partie de notre émission. Aujourd'hui, elle est décalée finalement au 10 janvier. Vous l'aurez compris, on parle de la présentation du texte sur la réforme des retraites, décalée de près d'un mois. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a précisé ce matin. Écoutez. Juste après le rappel des titres, pardon.
La fin du procès de l'attentat de Nice au terme de 60 jours d'audience. Il s'est terminé ce matin avec les derniers mots des accusés. Aucune des 8 personnes jugées ne l'est pour complicité avec le tueur. Le 14 juillet 2016, l'attentat avait fait 86 morts et 450 blessés sur la promenade des Anglais. Le verdict est attendu demain. Leclerc bannit les prospectus en papier. Les 700 supermarchés n'enverront plus de papier publicitaire d'ici septembre 2023. L'enseigne met en avant une décision bonne pour la planète. Le coût du papier y est sûrement aussi pour quelque chose, puisqu'il a bondi de 40% en 2 ans. Enfin, Vladimir Poutine renonce à sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année. Décision prise après des revers militaires et des sanctions occidentales imposées à la Russie. Le face-à-face de Vladimir Poutine avec la presse était pourtant organisé chaque année depuis 2001, à l'exception de la période entre 2008 et 2012, lorsqu'il occupait le poste de Premier ministre.
Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, concertations ces dernières semaines et derniers mois. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier, ce qui permet d'avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui ont davantage de temps libre ou que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités puissent quand même, sur quelques éléments clés de la réforme, pouvoir échanger avec le gouvernement.
Bonjour François Piquemal, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Vous avez entendu à l'instant là et Emmanuel Macron évoquant ce report, ce décalage. Qu'est-ce que vous vous dites ? Chouette, on va pouvoir échanger, comme il dit, ou vous dites qu'est-ce qu'il y a derrière ? Enfin, quel est votre manière d'appréhender le calendrier qui est à nouveau choisi par l'exécutif.
Écoutez, c'est toujours un plaisir d'échanger dans un cadre démocratique. Nous, on en fait l'expérience. Malheureusement, souvent, nos échanges sont rompus par des 49-3 en série. Donc là, l'annonce d'Emmanuel Macron, c'est une annonce qui, en creux, marque une sorte de petit recul sur sa réforme des retraites, dont il sait qu'elle est grandement impopulaire dans le pays. Moi, je ne rencontre personne qui me dit qu'il a trop hâte d'être à la réforme des retraites, à part peut-être quelques députés Renaissance ici dans cette Assemblée.
Est-ce que vous vous dites finalement que ça nous laisse une marge de manœuvre pour à nouveau discuter du fond de cette retraite, ou vous n'y croyez pas trop quand même ?
Et nous, comme d'habitude, on sera à la fois la première force d'opposition si cette réforme doit passer en force, mais aussi la première force de proposition. Nous n'arrêtons pas de faire des propositions au sein de l'hémicycle pour améliorer, quand cela est possible, les textes de loi. Et nous, on a une proposition simple, c'est la retraite à 60 ans à taux plein pour tout à chacun, et avec des conditions spéciales pour les métiers pénibles. Je pense notamment aux militaires ou à d'autres professions qui méritent d'avoir un régime particulier eu égard des dangers auxquels ils peuvent être exposés.
Alors, restez avec nous. On poursuit la discussion en plateau, mais bien sûr, vous allez pouvoir intervenir après nos invités également avec nous. Pierre Lellouche, la retraite à 60 ans, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est inenvisageable dans les conditions qu'on nous décrit de l'état de financement aujourd'hui des retraites ?
Bon, c'était un coup de François Mitterrand il y a
40 ans.
40 ans ? Exactement. Je pense que c'est totalement déraisonnable au vu de l'allongement de la vie, au vu de l'état de notre économie, au vu de ce que font tous nos compétiteurs. La France, elle n'est pas sur une autre planète. Nous devons essayer d'être compétitifs. Je pense que mon excellent collègue doit connaître les chiffres du commerce extérieur qui n'ont jamais été aussi tragiques que cette année. Ce n'est pas le fait du Saint-Esprit, c'est fait en raison de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur la compétitivité de notre entreprise. Deuxièmement, il y a l'équilibre même du... Je ne vais pas redévelopper tout ça, mais l'équilibre même du régime des retraites exige qu'on revienne à la situation antérieure. Oui. Car je rappelle qu'en 1982, la retraite en France, elle était à 65 ans. Et à chaque fois que Macron recule, à mon avis, il fragilise sa position.
Alors,
c'est
on va
ça
revenir.
Qui m'ennuie dans cette décision.
On va revenir à l'Assemblée, mais Benjamin Cauchy, pour la réaction à ce que dit notre invité aussi à distance. Après, j'aimerais aussi sonder sa réaction à ce qu'a dit Pierre Lellouche. Ce serait intéressant, je pense.
Oui, alors, si on enlève tout le décorum et les histoires de 49-3 dont M. Piquemal voulait agrémenter son propos, comment finance-t-on la retraite à 60 ans ? Est-il crédible qu'un collaborateur d'une société d'assurance qui va rester de 9h à 17h assis dans un bureau, est-ce qu'il peut aller à 64 ou 64 ans ? Je pense que oui. Est-ce qu'un plombier artisan qui a commencé à 14 ans peut aller jusqu'à 65 ans ? Ça me paraît difficile. Est-ce qu'un éboueur peut aller jusqu'à 65 ans ? Ça paraît difficile. Donc je crois que malheureusement, à la fois Emmanuel Macron, mais aussi M. Piquemal qui incarne cette idéologie majeure, qui est d'idéologiser la retraite. On oublie quelque chose dans cette réforme des retraites, et ni Emmanuel Macron, ni la France Insoumise n'en parle, ce sont les auto-entrepreneurs, qui sont des centaines de milliers par an à quitter soit Pôle emploi, parce que vous voyez les chiffres de Pôle emploi qui descendent, on dit super, les gens retrouvent du travail. Non, les gens créent leur boulot, ils sont auto-entrepreneurs. La moyenne d'un auto-entrepreneur en France, c'est 800 balles par mois. Et ces gens-là, comment ils font pour calculer leur retraite ? Donc je crois qu'on prend ce problème des retraites uniquement par un petit bout de la lorgnette. Et ça me paraît extrêmement court comme réflexion.
Voilà. François Piquemal, juste une question pour rebondir en fait à ce que disait Pierre Lellouche initialement. Comment nous, c'est vraiment une question sincère, presque candide, pourquoi nous en termes de financement, ou comment plutôt on réussirait là où les autres ont échoué ?
Pas échoué. Ils ont...
J'ai pas bien compris votre question, excusez-moi.
Non, ils ont des âges beaucoup.
Ils sont obligés échouer dans le sens où ils sont obligés. Vous avez pas entendu la question. Pourquoi nous on réussirait là où d'autres pays ont été obligés de repousser l'âge de la retraite ? Pourquoi on échapperait à cette règle ? Qu'est-ce qui fait que nos finances nous permettraient de le faire aujourd'hui ?
Mais déjà parce que tous les pays mondiaux ne sont pas en train de repousser l'âge de la retraite. Il faut s'ouvrir au monde. Et pas regarder simplement les exemples qui nous arrangent. Ensuite, il y a une question, oui, de société derrière cela. Parce que quand j'entends dire, par exemple, que l'espérance de vie a augmenté, elle a augmenté précisément parce que beaucoup de gens pouvaient partir à la retraite en bonne santé et donc bénéficier d'années de repos en bonne santé. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des gens qui vont arriver au bout du rouleau, au bout physiquement, et profiter peut-être d'une, deux années de retraite avant de malheureusement décéder. Je vous rappelle qu'il y a 13 ans d'espérance de vie, de différence entre les hommes les plus pauvres et les hommes les plus riches. Et ça aussi, c'est une injustice, notre rapport au temps. Et c'est pour ça que nous, on est pour que les gens puissent bénéficier, après des années de travail, d'un temps de repos pour eux, mais aussi pour les autres, car je rappelle que beaucoup de retraités sont très actifs dans nos associations, mais également dans nos communes, où énormément de petits maires sont des retraités, justement, respectés de par leur sagesse et de par le temps qu'ils peuvent donner à la communauté. Donc vous voyez, c'est une question qui est sociétale. Et sur la question économique, je ne vous ai pas coupé, monsieur. Sur la question économique, le Conseil d'orientation des retraites nous explique que le système est tenable jusqu'à 2040. À partir de là, il faut faire des choix. Et ces choix, c'est des choix de partage de la richesse. Est-ce que pour 12 milliards d'euros qui sont annoncés d'économie par Mme Borne, est-ce qu'il ne vaut pas mieux conserver par exemple l'impôt sur la CVAE qui rapporte 14 milliards d'euros ou tout simplement remettre un ISF renforcé qui permettrait de financer en partie le régime des retraites.
Merci, on va faire réagir Jean-Michel Fauvert qui ne s'est pas encore exprimé. Et si vous avez encore un petit moment, un petit mot pour...
Non mais l'idée c'est bien d'avoir un système pérenne au-delà de 2040 bien évidemment et pour travailler là-dessus, il faut y travailler dès maintenant. Il faut d'abord effectivement augmenter cet âge de la retraite et s'aligner surtout, et ça a été dit, s'aligner sur tous les pays européens parce qu'on fait partie d'un bloc européen et on est directement en interaction avec ce bloc européen, donc il faut s'aligner là-dessus. Et puis le fait d'allonger le départ de l'âge à la retraite fait en sorte qu'on crée aussi de la richesse d'une manière générale avec des emplois supplémentaires qui ne sont pas transformés en rentiers mais en emplois.
En 30 secondes, Pierre-Louis, je en 30 secondes.
Ce qu'a dit le député d'extrême gauche, de la NUPES, moi je veux bien que les gens travaillent le moins possible et qu'on leur garantisse une vie en pleine santé le plus longtemps possible. La question, c'est qui paye avec la démographie que nous avons.
Mais il vous dit que jusqu'en 2040, le système est pérenne quand même.
Il est pérenne avec des déficits. Mais enfin bon, il est pas tenable, il est pas soutenable. Donc il faut, quand je vois que nos voisins européens sont à 67 ans, alors il faut doser en fonction.
L'objectif de LFI, monsieur Lelouch, c'est 2027, hein, c'est pas 2040. Ouais.
Non, mais... Sans compter qu'à 65 ans, on peut être en pleine santé.
Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci beaucoup, François Piquemal, d'avoir répondu à nos questions depuis l'Assemblée nationale. On remercie Élodie Huchard et Léo Marchelier. Je sais que vous...
Merci à vous.
On n'a plus de temps, mais on aura l'occasion de reprendre
ce débat. Bonne journée et j'invite votre invité à mieux réviser son paysage politique, puisque l'extrême gauche a des partis. Nous, on est juste la gauche moderne adaptée aux défis.
Vous êtes l'extrême gauche et vous avez le droit d'en avoir honte.
Allez, merci à tous. C'est la fin de cette émission.
Mais c'est que vous connaissez mal le paysage politique. Allez revoir vos fiches.
Voilà. Punchline, d'ici quelques secondes, avec Laurence Ferrari. Merci, vous reviendrez, vous aurez le temps de vous exprimer à nouveau. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. À bientôt.
Je vais aller revoir mes fiches.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.